Aujourd'hui, 14% des marins de la Marine nationale sont des femmes. Si la première expérimentation d'embarquement de femmes remonte à 1983, ce n'est pas si loin. Il aura fallu attendre 2018 pour que les équipages de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins s'ouvrent à elles. Retour en arrière, du 17e au 19e siècle, les pêcheurs bretons partent pour Terre-Neuve au Canada ou pour l'Islande pour la morue, ou s'adonnent à la pêche côtière par exemple pour la sardine. Une chose est sûre, à l'époque, peu de femmes font partie des équipages. Si on parle des femmes et de la mer, certaines représentations persistent. La femme porte-malheur sur un navire, la femme pirate qui passionne les gens mais dont la réalité est pourtant anecdotique, également la femme volage à bord comme au port. La question majeure qui se pose, c'est bien celle de l'absence de la femme pour son époux parti en mer et inversement. La femme de marin devient alors le personnage central du foyer et développe une multi-activité, éducation, gestion des biens et des finances, etc. Certaines ont une puissance telle qu'elles se lancent même dans la négoce. Globalement, on peut parler d'une économie de la mer qui amène les femmes à travailler dans nombre de ses filières, de la corderie à la vente de poissons en passant par l'industrie de la chaussette. Alors, qui sont ces femmes mariées à la mer ? Si on lit entre les lignes des archives de l'époque, une autre histoire se dessine et avec elle, le portrait des femmes jusqu'alors ignorées. Bienvenue dans Chercheurs en ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui, notre invité est Philippe Rodège, bonjour.
Bonjour et merci de m'inviter.
Vous êtes un ancien de la Marine nationale, aujourd'hui maître de conférence en histoire moderne à l'Université Bretagne Sud. Vous appartenez au laboratoire Thémos, Thémos pour temps, monde, société. Et avec Emmanuelle Charpentier, maîtresse de conférence en histoire moderne dans une université toulousaine, vous avez publié Les femmes et la mer à l'époque moderne. On y reviendra dans cette émission où vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de vous, Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour Lucie, bonjour à tous.
Colette, je vous laisse la parole.
Philippe Rodège, vous connaissez très bien la mer. Vous avez été engagé dans la Marine nationale pendant 15 ans. Et en tant qu'historien maritime, vous avez notamment publié une histoire et un dictionnaire des corsaires et des pirates. Et dans votre dernier ouvrage, vous traitez du rapport des femmes et la mer. Alors peut-être si on commençait par se débarrasser des clichés. Des clichés qui pèsent lourd. L'un des premiers, c'est pas de femme à bord, parce que ça sème les zizanies, parce que ça porte la poisse sur le bateau et au sein de l'équipage. Deuxième cliché, toutes les femmes de marins sont des femmes trompées. Et enfin, bien sûr, la figure peut-être la plus mythique, particulièrement en Bretagne, la veuve, bien sûr. La veuve courageuse, évidemment, et emmurée dans son silence. Alors, que faut-il penser de ces clichés et caricatures ?
Eh bien, écoutez, à propos de ces clichés, il est certain que l'histoire qui nous a intéressé, Emmanuelle Charpentier et moi-même, était surtout l'histoire des femmes au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et donc, il ne vous aura pas échappé, effectivement, qu'il y a des témoignages au XIXe siècle qui, finalement, ont tiré une sorte d'expérience en matière de clichés, d'ailleurs, hein, que vous évoquiez, et qui troublent certainement la compréhension de ce qu'étaient les marins et de ce qu'étaient les familles de marins sous l'Ancien Régime. Alors, les femmes à bord, pour ce premier point, il est vrai qu'il y avait très très peu de femmes à bord. La plupart du temps, c'était de façon clandestine. Vous parliez tout à l'heure des pirates. C'est la question récurrente à laquelle j'ai droit en permanence, à savoir y avait-il des femmes pirates ? C'est vraiment ce qui passionne les gens. Écoutez, on en a deux. Certainement, il y en a-t-il eu un peu plus, mais et c'est vraiment quelque chose de très ténu. Hein. Il est bien évident que ce sont surtout des équipages d'hommes hein, qui arment les bateaux, quelle que soit leur navigation et quelle que soit leur destination.
Dans votre livre, donc, Les femmes pirates, écumeuses des mers, Marie-Ève Stenu, vous parlez aussi de quelques femmes françaises assez touchantes, Rose Brejon, Louise Antonini, Julienne Davine, des filles pauvres, orphelines souvent, qui rien ne les retenait et puis qui sont parties parce qu'elles n'avaient rien, parce qu'elles avaient besoin de vivre. C'est
trois femmes étaient non pas des pirates, mais des corsaires. Donc il y a une différence, c'est qu'elles étaient engagées
par le gouvernement
en période de guerre pour ne s'en prendre qu'aux bateaux du pays ennemi.
Tandis que les pirates
aucune distinction.
Extrait de l'émission Les femmes, toute une histoire du 3 mai 2015 sur France Inter, avec l'historienne de l'art et archéologue Marie-Ève Stenuy.
En revanche, et le livre le montre bien, les femmes embarquent, mais peut-être plus de l'estran à l'horizon maritime, hein, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui embarquent pour la pêche côtière. Mmh. Hein, ce qui n'enlève rien d'ailleurs au danger du métier et de leur embarquement. Ces femmes trompées, alors il y a aussi le versant opposé, c'est-à-dire ces femmes volages aussi. Hein.
Volage à terre, vous voulez dire?
Volage à terre une fois que le mari est parti.
Oh, ça, on y reviendra. On y reviendra.
Voilà. Mais bon.
Mais qu'est-ce que vous pensez des Malouins qui disaient que dès qu'ils avaient doublé le Cap Fréhel, ils pouvaient tromper leur femme?
Je pense que ça doit être dramatique d'être marié dans de telles conditions et d'avoir une confiance aussi peu soutenue à l'égard de son épouse. Oh, je pense qu'un représentant de commerce qui s'éloigne aussi aurait droit à la même réputation. Et je pense que c'est l'éloignement en lui-même qui provoque ce genre de paranoïa et puis ensuite qui génère ce genre de clichés. Et puis ne pas oublier non plus. Et là, on redevient beaucoup, beaucoup plus sérieux. Ne pas oublier que les liens sont très forts dans les communautés. D'ailleurs, à plusieurs reprises, on le montre bien. Ces femmes, alors, sont surveillées, mais ces femmes surveillent également. Ces femmes, s'entraident. Hein, y a véritablement, quand les hommes partent par centaines, hein, notamment pour la pêche à Terre-Neuve, il y a vraiment une communauté de femmes qui se met en place, et on peut gager effectivement que ce serait étonnant que ici ou là on se retrouve à ouvrir un des établissements particuliers. Non, on peut imaginer effectivement que l'attente commence et puis que ces femmes ont d'autres choses à faire aussi. On en parlera certainement,
bien sûr. Hein,
dans le cadre de ce qu'on appelle en général la pluriactivité.
Christian Lebar.
Alors effectivement, cet imaginaire qui est en fait très largement lié au 19e siècle, hein, la structuration familiale au 19e siècle, la notion d'adultère, etc. Cet imaginaire, vous le refroidissez en produisant des documents qui sont très, très passionnants. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot des sources? Parce que c'est toujours fascinant pour les gens qui ne sont pas historiens de lire les modernistes et de dire comment est-ce qu'aujourd'hui on peut travailler sur ce qu'était la pêche au 17e, au 18e et en plus, côté femme, c'est-à-dire du côté qui a priori laisse, c'est pas a priori, on sait bien ça, qui laisse moins de traces, qui écrit moins, qui a moins le droit de parole, etc.
Alors, les sources sont revisitées actuellement hein, par un certain nombre d'historiens, Nicole Dufourneau, Bernard Michon ont eu l'occasion également de le faire, André L'Espagnol l'avait commencé également, et ce sont pas les seuls, je pense à Thierry Sozo également. Si vous voulez, le problème, effectivement, c'est que les femmes n'ont pas droit à des archives qui leur soient spécifiques.
Bien sûr.
Donc, il faut souvent lire ce qui est écrit en filigrane. On n'a pas toujours des vérités comme ça qui s'affichent ou des éléments statistiques. Il faut donc les reconstituer. Mais Dieu merci, il y a quand même des archives passées par devant notaire qui restent aujourd'hui, des actes passés par devant notaire, comme les procurations, qui donnent effectivement une idée un petit peu de l'importance des femmes. Et puis à travers la correspondance des autorités, on voit aussi bien entendu les femmes apparaître, on les voit protester, hein, et quand elles protestent, en général, elles font bien plus peur aux dites autorités que les hommes, parce qu'elles s'organisent, parce qu'elles sont jusqu'au boutistes, parce qu'elles n'hésitent pas dans la misère, elles défendent aussi leurs enfants, donc elles sont beaucoup plus tenaces. Et puis on les voit aussi, du fait qu'elles ont des enfants à nourrir et du fait que leurs hommes ne sont pas là, on les voit aussi aller chercher de quoi se nourrir. On les voit être appuyées par le recteur, par le curé, hein, qui a un rôle important évidemment dans la paroisse, puisqu'il se fait par rapport aux autorités le transmetteur justement de cette misère. On les voit aussi, on l'a montré, apparaître sur les tableaux. Alors effectivement, elles sont pas au premier plan, mais elles sont bien présentes. On les voit aussi travailler dans les arsenaux. Donc finalement,
tout ça, il y a des documents, il y a des écrits,
il y a des documents, bien entendu. Je pense que jusqu'à présent, enfin pendant trop longtemps, ces documents ont été négligés, et le fait de les revisiter, le fait peut-être de se dire voilà, je fais une lecture en cherchant à identifier ces femmes, fait effectivement qu'on arrive à faire émerger des informations tout à fait cohérentes et qui montrent effectivement qui étaient ces femmes. Et puis de rappeler que de toute façon, à partir du moment où on est sous l'Ancien Régime, et probablement encore toute une partie du XIXe siècle, le couple est une cellule économique, ça a été dit et redit, chacun a sa tâche, et donc pourquoi ne pas parler des femmes, puisqu'un homme sans une femme n'est rien ou n'est qu'une moitié, et tout le monde le considérait comme tel à l'époque.
Est-ce qu'on peut dire que quand les hommes sont en mer, soit pour la pêche ou pour la guerre, donc c'est les femmes qui mènent la barque. Alors on va revenir, comment gère-t-elle l'absence, y compris, on y reviendra sur le plan économique et financier, mais aussi tout ce temps d'éloignement vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis des enfants. Dans votre ouvrage, il y a un chapitre sur les Néerlandaises, et il y a une expression qui m'a beaucoup frappée. On parle des veuves de non décédés. Les veuves de non décédés.
Oui, cette absence, elle est souvent très longue. Juste pour mémoire, les bateaux pour Terre-Neuve, les Morutiers, hein, appareillent en général au mois d'avril, au mois de mai, comme à Saint-Malo, puisque c'est l'exemple qui nous a le plus intéressé, et puis on est à Rennes, c'est beaucoup plus de la pêche sédentaire, donc c'est une pêche qui peut s'éterniser jusqu'au mois de novembre, et quand les navires rentrent par Marseille pour vendre le produit de leur pêche, donc ces morues séchées, c'est quelque chose qui se prolonge jusqu'au mois de février. Gilbert Buty avait une très très belle expression également, en disant que la vie d'un marin, c'était une cohabitation avec sa famille temporaire, et puis ensuite un long temps de navigation. Alors maintenant, si on inverse un petit peu la chose et qu'on se met du côté des familles et donc du côté des femmes, ce qui n'a pas vraiment changé d'ailleurs au jour d'aujourd'hui, hein. C'est vrai que il y a cette période que l'on passe avec son mari, c'est quelques mois, hein, durant lesquels on peut imaginer, on va peut-être mettre en route un enfant, on va certainement faire le point un petit peu et l'aspect financier un petit peu de la famille, et puis après il y a cette longue absence qui commence. Alors ce qu'on peut imaginer aussi, c'est qu'elle commençait pour tout le monde dans une société à l'époque, c'est-à-dire que on le voit, hein, je me suis beaucoup plus intéressé à Cancale jusqu'à présent, les Cancalais partent par dizaines, évidemment, donc ce sont des dizaines de femmes qui doivent gérer l'absence dont vous parliez. Cette absence, je pense qu'elle commence surtout par l'obligation de trouver une activité rémunératrice, c'est-à-dire de pouvoir nourrir sa famille, avec un paramètre qu'on ne comprend pas aujourd'hui très bien, hein, c'est le fait que tout était payé en retard. Aujourd'hui,
les soldes, les...
Mais bien sûr, un marin qui embarque sur un corsaire, vous imaginez, il ne va faire qu'une campagne qui durera 4 mois, mais le temps que les prises qui ont été amenées, s'il y a eu des prises, soient jugées, le temps qu'elles soient vendues à l'encan, et le temps effectivement que ce partage soit fait et qu'il reçoive la part qui lui revient, il se passe des mois et des mois, voire des années des fois. La marine royale, la marine du roi, elle aussi pèse souvent très en retard avec des années de délai. Pour la pêche, c'est un petit peu la même chose aussi. Donc, on a des familles qui vivent en attente de paiement permanent, et donc ce sont les femmes, très clairement, qui doivent prendre le collier. Alors, on parlera certainement aussi de toutes les responsabilités qui leur sont échues. Oui. Et donc, qui sont évidemment le moteur qui leur permettent d'avoir ces activités.
Mmh. Christian.
Oui, alors là, on touche vraiment à ce que moi j'ai trouvé de plus passionnant dans le livre, c'est-à-dire qu'une fois fait ce constat que les hommes n'étant pas là, eh bien, ce sont les femmes qui... Alors, s'il dit qu'ils font tourner à la fois la structure familiale, oui, c'est évident, et l'économie, par exemple l'économie de la pêche, il faudrait sans doute nuancer, mais voilà, est-ce qu'on peut orienter la discussion vers ces deux questions-là, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a... pour utiliser une formule peut-être excessive, mais qui aura le mérite d'être claire, est-ce qu'il y a un matriarcat lié à l'absence des hommes? Et voilà, comme on a pu parler du matriarcat bigoudin, est-ce que ça nous amène éventuellement à revisiter les stéréotypes sur la domination masculine dans la société d'Ancien Régime? Et une deuxième piste, et là il y a vraiment plein d'éléments très passionnants dans ce livre collectif, est-ce que l'économie de la pêche, comment est-ce que quelle place les femmes occupent-elles dans cette économie de la pêche? Alors, sur des fonctions subalternes, ça, c'est très très bien montré, mais aussi, je pense à l'article d'André L'Espagnol, sur des fonctions d'encadrement, c'est un affreux anachronisme, mais sur des fonctions de direction, de direction de ce secteur d'activité.
Alors, pour vous répondre, je vous poserai une question. Est-ce que vous avez déjà rencontré des femmes de marins?
Oui, ça m'est arrivé.
Voilà.
Oui.
Est-ce que vous avez vraiment l'impression que ce sont des femmes qui se laissent dominer?
Ben, c'était un peu ma question.
Voilà. Moi, pour en avoir rencontré également, tout comme vous, je pense que oui, il y a cette habitude de prendre les choses en main. Je ne sais pas si il faut parler de matriarcat, mais il est évident que ces femmes mènent avec une poigne de fer, on peut l'imaginer, leur foyer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ce rapport homme-femme dans le couple.
L'homme revient, est-ce qu'on a des idées de la façon dont sur l'autorité, sur les enfants, sur les décisions domestiques, etc. Est-ce qu'on a des indices de comment ça se passe?
Pas vraiment. Je pense pas qu'il y ait vraiment de témoignages à l'époque, mais finalement, regardez aujourd'hui ce qui se passe. Il y a toujours cette difficulté de se remettre, de reprendre son rôle de père quand finalement c'est la mère qui a joué les deux rôles pendant des mois et des mois. Il y a le fait aussi qu'on va repartir. Donc les enfants savent très bien que la chose est temporaire. On peut imaginer que oui, les femmes à l'époque étaient habituées finalement à cette chose, et que leur incombait finalement cette mission d'éducation. C'est là-dessus d'ailleurs que nos travaux porteront dans le futur, hein, c'est-à-dire ces jeunes filles qui, alors si je reprends l'exemple de Cancale où tout le monde, enfin peu ou prou, mais prou surtout, sont des filles de marins, mariées à des marins, donc dont les enfants seront marins. Il y a tout ce système éducatif qui est intéressant aussi à voir. Comment une femme finalement perd? Alors, à temps ou définitivement, quand elle devient veuve, son mari, des mois durant, fait pour élever des enfants qui deviendront marins à leur tour. C'est quand même une question assez intéressante. Et puis, comment les filles sont élevées aussi, là aussi, pour subir, entre guillemets, le même sort. Hein, tout ça ne manque pas d'intérêt. Donc, matriarcat, je ne sais pas si on doit vraiment employer ce mot, mais il est certain qu'elles sont chefs de famille sur le long temps, c'est évident. Et puis, ne pas oublier que quand les marins rentrent, ils repartent à la pêche côtière. Hein, donc, ils ne sont pas là de la journée non plus. Hein, donc, il y a aussi des absences permanentes, même si elles sont plus courtes. L'autre question.
C'était sur le secteur de la pêche, oui. Sur la division. Alors, question plus classique, la division du travail au sein de ce secteur d'activité, quoi.
Voilà. Alors, il faut bien comprendre qu'une femme, quand elle perd son mari, alors là, c'est une veuve définitive, hein, lorsqu'elle perd son mari, c'est elle qui reprend finalement toutes les affaires qui étaient entre les mains du dit mari. Alors, la plupart du temps, elle peut avoir un fils qu'elle met en avant, mais les travaux justement d'André l'Espagnol et puis d'autres, hein, ont bien montré que ces femmes occupent finalement l'ensemble des tâches qu'occupait effectivement le mari défunt. André l'Espagnol, dans cet exemple, donne plusieurs cas effectivement de femmes d'armateurs notamment. Alors, il prend bien sûr la mère de René du Guétroin, hein, Marguerite Baucher. Moi, j'en avais trouvé un aussi qui était tout à fait fabuleux. C'était une dénommée Marthe Chauvel qui vivait à Dieppe, qui elle en plus était protestante. Donc évidemment, une chose très compliquée au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Et cette femme donc était veuve de son mari qui s'appelait Jean Baudry, qui était un armateur à Dieppe, donc très très bien placé, qui avait pratiquement la moitié des bateaux de Dieppe. Hein. Alors ici, on est à côté de la Normandie, donc on n'oubliera pas évidemment de dire que les Normands ont été, avec les Malouins bien entendu, hein, des gens qui se sont élancés sur les mers très très tôt. Hein. Et donc, y a une culture, si vous voulez, hein, auprès de ses armateurs. Et donc, cette veuve, on la voit tout faire. On la voit recruter des engagés pour envoyer aux Antilles. On la voit s'occuper des armements de toutes les compagnies négrières et particulièrement de la compagnie du Sénégal à l'époque, qui armait essentiellement, alors à La Rochelle, c'est vrai, mais aussi dans les ports normands, donc Dieppe, Honfleur, Le Havre, Rouen, etc. Donc, c'est elle qui s'occupe de ces armements. On la voit traiter de ce que gagnent finalement toutes les autorités, enfin tous les officiers qui sont en place aux Antilles. Donc c'est elle qui traite avec un financier à Paris pour leur leur envoyer l'argent, etc. Ou alors plus exactement pour gérer leur argent et savoir ce qu'ils veulent qu'on leur achète. C'est elle qui envoie des bateaux directement aux Antilles, ses propres bateaux, ses propres équipages, ses propres capitaines, et en bout de ligne, hein, finalement dans une ligne de production verticale, c'est elle qui possède une raffinerie sucrière, ce qui fait que quand le sucre revient de la Martinique ou de la Guadeloupe, en tout cas à l'époque, eh bien, il est raffiné à Dieppe. Donc vous voyez, elle a absolument tous les pouvoirs. Et cette femme, également essayer de la convertir. Hein, donc des missionnaires vont aller la voir et ils vont ressortir de la maison chassés à coups de balai, tout simplement. Elle leur dira, moi j'ai toujours vécu dans cette religion et je n'en changerai pas, et que croyez-vous qu'il arriva? Bah, rien du tout. On a préféré effectivement la laisser tranquille. Son rôle économique était somme toute bien plus important que le fait d'une conversion. Sa fille, elle, s'était convertie, mariée au personnage qui a été l'objet de ma thèse, et qui deviendra donc amiral, donc un des grands personnages de l'Ancien Régime et de la marine de cette époque. Donc, vous voyez, la France, l'État n'a rien perdu au change, en fait.
Puisque vous parlez de ces femmes qui entreprenaient beaucoup, j'ai repris les quelques statistiques que vous donnez dans votre livre. Entre 1680 et 1720, à Saint-Malo, 10% des bateaux étaient armés par des femmes. Et au 18e, 18% des morutiers des Sables-d'Olonne étaient aussi armés par des femmes. Ça donne une idée de cette activité. On y reviendra après notre pause musicale. Nous allons entendre Sabina qui nous chante « Sailor's Daughter, la fille du marin ».
Oh, Er hat eine Frau in jedem Mann. Und meine Mutter war gut gebaut. Er hat zweimal bei ihr geschlafen, dann ist er abgehauen. Doch hat er etwas hinterlassen, bevor sein Foto verblich. Du kannst es sehen auf Hamburgs Straßen. Und dieses Abbild, das bin ich. Als ich ein Kind war, wollte ich ihn suchen auf offener See. Und ich höre ihn singen in Sprachen, die nur ich verstehe. Doch wie ich mich verkleide, keiner lässt mich auf ein Boot. Wie ich die Seemänner beneide für ihren Mut. I am a sailor's daughter. Don't ask for my name. All I have is my mother and a dubious fame. Jedes Mal, dass ich am Hafen einen Matrosen laufen sehe, da höre ich von weit, weit her Vaters Lieder, die Lieder, die nur ich verstehe. Und es drängt mich, ihn zu lieben, was er auch tut, wer er auch sei. Denn einmal in die See getrieben ist alles andere einerlei. I am a sailor's daughter. Please let me aboard.
C'était Sabina, Sailor's Daughter, vous écoutez Canal B. Et aujourd'hui dans Chercheurs en Ville, votre émission consacrée à la recherche scientifique, nous recevons Philippe Rodège, il est maître de conférence en histoire moderne à l'Université Bretagne Sud, pour parler de ce sujet, les femmes et la mer à l'époque moderne. En première partie d'émission, vous avez pu découvrir les mythes récurrents quand on parle des femmes et de la mer. La réalité, c'est bien qu'elles étaient rarement à bord et devaient gérer l'absence de leurs époux au quotidien et détenaient un certain pouvoir. À présent, zoom sur les activités professionnelles des femmes de marins dans une économie où tout ou presque tourne autour de la mer. Il sera également question de correspondance à travers les océans, de drames familiaux et de l'histoire d'un canonnier devenu chercheur.
Philippe Rodège, revenons aux activités et à la manière de gagner sa vie des femmes à terre pendant que les hommes sont en mer. Vous nous avez parlé des femmes qui prenaient des parts dans des bateaux, qui armaient des bateaux, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité de faire bouillir la marmite ?
Oui, bouillir la marmite, ça doit certainement être ce qui est recherché par ces femmes, qui sont de toute façon contraintes, bien évidemment, à travailler, à occuper un emploi. Alors, si on regarde les tableaux de Vernet dans les arsenaux...
Vernet, rappelez-nous qui c'est.
Alors, c'est un grand peintre du XVIIIe siècle qui avait reçu comme mission de se promener en France le long des littoraux et de peindre, de croquer, effectivement, effectivement des vues qui sont aujourd'hui au musée de la Marine et qui, alors, qui donnent effectivement une image des femmes qui n'est pas toujours au premier plan, hein, d'évidence, mais qui est quand même très important. Et donc c'est pour ça qu'on a nous fait des agrandissements sur ces femmes chaque fois qu'on en découvrait dans les tableaux. Et il ne faut pas chercher bien longtemps, effectivement.
Quelle était la fonction de cette série ? Il y avait une fonction.
Il y avait la volonté de reproduire l'importance de ces ports. Alors c'est pas que des ports de guerre. Hein. Il y a eu Bayonne, il y a eu Bordeaux, il y a eu Toulon, il y en a eu d'autres. Il n'y a pas eu tous les ports, mais il y en a quand même un certain nombre. Et donc c'est de montrer effectivement, de laisser un témoignage de ce qu'étaient ces ports, de ce qu'étaient leurs activités et des gens finalement qui les côtoyaient. Et donc parmi ces femmes, alors on a tout, on a des femmes qui vendent du poisson, on a des femmes qui transportent de l'eau, on a des femmes qui, comment dire, qui tiennent des petits bistrots, hein, où les gens de mer et puis les ouvriers peuvent venir se rafraîchir. On a également des femmes qui s'occupent de laver les draps, etc. Et si on quitte un peu les tableaux et qu'on rentre à l'intérieur des bâtiments, c'est ce qu'Olivier Corr a fait, hein, à travers sa thèse, on trouve effectivement des femmes qui travaillent dans les corderies, qui travaillent très dur. Alors ce sont des femmes qui sont payées en général à la pièce. On va trouver aussi des prostituées, hein, qui sont enfermées et donc condamnées aussi au travail. On va trouver des femmes bien sûr dans les hôpitaux. Et leur rôle est évidemment très important dans ce domaine. Et puis, si l'on sort maintenant un petit peu des ports, si on reste dans les rues, je dirais, avoisinantes, eh bien, on va trouver aussi des femmes, alors peut-être un petit peu plus aisées, hein, bénéficiant d'un capital, qui vont s'intéresser effectivement à la navigation. Alors, on trouve certainement souvent des veuves, mais les marins doivent se loger. On s'aperçoit quand on regarde Brest par exemple et les rues à recouvrance, etc., que souvent les marins vivent à plusieurs dans des maisons. Ce sont bien souvent les femmes qui les hébergent, je veux dire, hein, qui sont leurs hôtesses, hein, et qui leur trouvent. Ou alors ça peut être également de façon provisoire. Mais si on part en mer maintenant, on va trouver des femmes qui vont prêter de l'argent, qui vont risquer. Donc de l'argent. Alors elle le risque déjà, on l'a dit tout à l'heure, en armant des vaisseaux, mais ça va se retrouver aussi au niveau de la pacotille. Hein. C'était quelque chose de très important.
C'est quoi le commerce de la pacotille ?
Oui, vous m'aviez dit qu'il fallait absolument parler. La pacotille, c'est tout simplement le fait que, alors, pour certains types de navigation, alors on prendra par exemple la navigation sur les vaisseaux de la Compagnie des Indes, on prendra la navigation qui s'oriente vers les mers du Sud ou vers les Antilles, c'est-à-dire partout où on ramène une marchandise spécifique avec une valeur ajoutée qui soit intéressante. Et donc ces femmes vont prêter de l'argent à des matelots. En leur demandant effectivement d'utiliser cet argent pour acheter des marchandises qui se revendent effectivement avec un bénéfice conséquent. Ou alors elles vont tout simplement acheter elles-mêmes des marchandises et les confier à des matelots qui prendront bien sûr leur part. Pour les vendre sur place. Ce qui fait effectivement que quand on regarde des marins qui décèdent en mer voient leur hard être vendu pratiquement immédiatement après leur décès. Hein. C'est-à-dire qu'on réunit tout au pied du mât et on vend aux enchères parmi les marins présents ce qu'ils possédaient, c'est-à-dire en général pas grand-chose. Hein, c'est particulièrement
les objets et les vêtements du mort.
Voilà, ces bas, ces chemises, etc. On trouve également trace de cette pacotille ou de l'argent qu'ils avaient tiré de la vente de celle-ci, hein, et donc cet argent est mis de côté et puis reversé effectivement à ces femmes, enfin à ces hommes ou à ces femmes, mais beaucoup de femmes pratiquent cette activité également, donc qui est un peu plus rémunératrice. Donc finalement, on s'aperçoit qu'on balaye là toutes les couches sociales de la société, hein. Les femmes occupent absolument tous les niveaux.
Christian.
Vous évoquez dans l'ouvrage à plusieurs endroits des extraits de correspondance. Vous citez des extraits de correspondance. Est-ce que on sait des choses sur les formes de communication qui étaient possibles entre les marins et leur famille? Est-ce que quelle était la fréquence de ces communications, ou est-ce que vraiment c'était des départs dans l'inconnu complet? Est-ce qu'on a idée de la façon dont les liens à distance pouvaient se maintenir?
Alors, je pense que ça dépend des navigations, et vous mettez le point d'ailleurs sur quelque chose de particulièrement intéressant. Il serait peut-être effectivement imaginable d'ouvrir une étude sur cette façon d'échanger les informations. En fait, ce qui arrive, je prends l'exemple de gens qui embarquent à l'Orient sur les vaisseaux de la Compagnie des Indes. On s'aperçoit que tous ces bateaux touchent en général l'île de l'Ascension, Sainte-Hélène, mais l'Ascension plutôt, et donc lors de l'escale, on dépose des lettres dans des endroits, alors bon, tenus secrets pour chaque nation, et donc un bâtiment qui revient dans l'autre sens, récupère finalement ce courrier.
Donc il y a un système quand même assez organisé.
Voilà, il y a un système organisé de
alors au 18e, là, vous parlez du 18e.
Au 18e, au 17e également, ouais. de bornes comme ça qui sont connues et où on va effectivement récupérer. Voilà. Alors ça peut se faire aussi quand on croise un autre navire, bien évidemment. Vous imaginez bien que ceux qui peuvent écrire ou ceux qui ont l'occasion de le faire peuvent transmettre des lettres. Et puis ça se fait aussi lors d'accidents, c'est-à-dire qu'un bateau qui doit relâcher, c'est l'occasion aussi d'envoyer du courrier. Alors souvent d'ailleurs, c'est assez intéressant, on a quelques exemples où des femmes viennent dire au commissaire aux classes ou viennent dire à l'autorité du port ce qui est arrivé au bateau parce que eux l'ignorent. Une épouse peut très bien recevoir une lettre de son mari avant même que les autorités ne soient informées de ce qui a pu se passer. Après, il y a aussi en temps de guerre, hein, les navires qui sont capturés. Si vous avez regardé dans l'introduction, c'est la seule lettre que j'ai pu trouver qui est tout à fait touchante, je veux dire émouvante, de cette femme qui manifestement n'écrit pas elle-même ou écrit comme elle le sent. Finalement, l'amour qu'elle a pour son mari et puis l'attente les enfants qui attendent également que leur père revient, ce qui d'ailleurs en quelques mots balaye tous les clichés dont on a parlé tout à l'heure. Si vous voulez, cette femme imagine que son mari est dans le monde, c'est-à-dire est très très loin. Elle l'imagine certainement à des milliers de kilomètres, alors qu'en réalité, la lettre a été retrouvée dans ce qu'on appelle les French Prize Papers, c'est-à-dire les papiers de prise qu'on trouve à Kew, donc à Londres, donc aux archives nationales britanniques. Donc ça fait partie de tous les papiers qui sont saisis par les corsaires quand ils s'emparent d'un bâtiment français. On a la même chose aux archives départementales à Rennes. C'est une lettre qui traînait au milieu d'autres et puis au milieu de connaissements, de correspondances plus officielles, etc. Et on peut imaginer que cette épouse n'a pas su, ou l'a-t-elle su, que son mari, en fait, avait été capturé par les Anglais et que probablement il est mort en prison comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres.
Et beaucoup plus près d'elle qu'elle ne l'imaginait.
Exactement.
Et donc on peut dire que c'est un peu le romantisme au 19e qui va un peu fabriquer la figure de la femme ou de la veuve de marin, de ces correspondances éplorées, de ces départs avec les mouchoirs qu'on agite, etc. Enfin, c'est plutôt un cliché du 19e du coup, alors de Hugo à Loti, enfin...
Alors, on peut l'imaginer. Alors, il va sans dire que quand on regarde les archives judiciaires, lorsque l'on regarde les plaintes qui ont été déposées, on retrouvera des femmes qui trompent leur mari. On retrouvera des maris volages. La syphilis, c'est pas une maladie imaginaire sur les bateaux, loin s'en faut. Bon, maintenant, ne pas oublier aussi qu'on se marie tard. Hein, au XVIIIe siècle, les maris, les marins, comme les autres d'ailleurs, hein, se marient à l'âge de 30 ans, 28, 30 ans. Les femmes, c'est à 25 ans en moyenne. Donc, c'est peut-être un âge où on a déjà comment dire, fait le tour des choses et qu'on a probablement plus besoin de le faire. Oui, il est certain que... On a peut-être utilisé un petit peu ces quelques histoires qui traînaient pour enjoliver la chose. Et puis, oui, pour leur donner peut-être une... Comment dire, une connotation plus romantique, plus émouvante, plus poignante.
Et puis ça devient un stéréotype littéraire.
Et ça devient un stéréotype littéraire, tout à fait. Mmh. Ouais, ouais. Qui a la dent dure, hein, puisque finalement aujourd'hui encore. Quand la. Je vais directement à la fin, mais quand la féminisation des armées est intervenue, aujourd'hui, bon, c'est quelque chose qui est acquis et je ne vois pas que ça pose de problème. Eh bien, effectivement, ce sont plutôt les femmes de marins qui ont protesté. Hein,
pas... C'était quand ça ?
Oh, c'était. Je ne saurais pas vous donner de date exactement. Je vous rappelle que.
Sur le mode de marins.
Moi, je vis au XVIIe siècle.
Nos maris vont être soumis à la tentation.
On est après-guerre.
On est dans les années 90.
On parlait de 18e et tout, pour les auditeurs.
Non, c'est les années 90-2000. Pour le peu que j'en sache à l'époque, c'est des femmes de marins qui ont protesté. Donc oui. Ces stéréotypes ont la vie dure.
Par exemple, la figure du marin qui part et puis qui revient 20 ans après, et puis qui retrouve sa femme remariée, des enfants qu'il ne connaît pas, etc.
Je rappelle quand même à l'occasion qu'avec un petit peu de brouillard et un coin de trottoir, etc., combien d'hommes sont partis acheter des cigarettes qui n'étaient pas marins. Donc finalement, avec les réseaux ferroviaires,
de tout poil.
Voilà, avec les réseaux ferroviaires ou avec les avions, on trouve certainement la même chose encore une fois. Non, la vie du marin, c'est une vie difficile, et la vie des femmes de marin, c'est une vie difficile. Et je pense que la difficulté, c'est peut-être aussi un élément qui soude. C'est peut-être aussi de temps en temps là qu'on devrait s'orienter quand on fait des recherches sur les familles de gens de mer.
C'est-à-dire qu'il y a une sociabilité dans les ports, une sociabilité autour des ports qui est liée au fait que, de fait, on a des familles monoparentales, on pourrait le dire comme ça. C'est-à-dire, je sais pas, on parlait des femmes de Ouessant, par exemple, avant de préparer. Oui, il y a des formes de solidarité, peut-être encouragées aussi par l'Église catholique, qu'on ne va pas forcément trouver là où le couple s'impose sous la forme mari-femme.
Je pense que c'est quelque chose qu'on peut absolument pas nier. Alors aujourd'hui, où est-ce que ça en est ? Ça, c'est une étude à faire. Ce qui est certain, c'est que dans le livre, il y a plusieurs exemples qui sont donnés. On parle notamment de ces femmes néerlandaises auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure et qui forment de véritables sociétés d'entraide. On voit bien d'ailleurs que ce sont des mouvements très, très puissants. Il y a également un témoignage sur les Shetland où on voit ces femmes qui font toutes le même travail, quelle que soit la génération, qui récolte lequel, on n'en a pas parlé tout à l'heure d'ailleurs, hein, de récolter des algues, la tourbe, de faire effectivement des chaussettes, hein, et à elles seules, elles arrivaient à faire presque une industrie de la chaussette pour les marins qui partaient en mer, et donc les bateaux s'arrêtaient au Shetland pour s'approvisionner en chaussettes.
Je vous cite, capitaine Craigie en 1849 dit « Les femmes sont les meilleurs hommes des Shetland ».
Mais oui, mais je pense que, mais alors dans son esprit, et
c'est un compliment dans son esprit.
Ah, mais je pense qu'il l'ait trouvé tout à fait admirable, et je pense qu'il avait raison parce que oui, on voit bien dans l'article d'ailleurs, il y a des taux de mortalité. Ça aussi, hein, on parlait de veuves tout à l'heure. Il faut aussi imaginer le taux de mortalité qui touche les hommes de 20 à 40 ans, qui est très important.
À l'automne. Quand les voiles des goélettes se dessinaient à nouveau à l'horizon, les femmes revenaient vers la croix des veuves. Certaines attendaient longtemps, longtemps, en vain.
Vous venez d'entendre l'extrait d'un reportage diffusé sur France 3 Bretagne en janvier 2018 sur la vie des femmes de marins de la grande pêche au départ des Côtes d'Armor.
Alors, pas forcément pour la pêche à Terre-Neuve. Hein. La mortalité, elle s'élève à peu près à 1,5%, ce qui n'est pas grand-chose. Mais imaginez quand même que dans le cadre de la traite négrière, dans le cadre d'expéditions dans l'océan Indien, etc., ce taux de mortalité, la traite négrière, il est de 14%.
Ça veut dire quoi, pourcent, excusez-moi.
Ça veut dire que vous avez un équipage de 100 hommes. En moyenne, il y en a 14 qui ne reviennent pas.
Ah, par expédition, alors.
Oui, par expédition.
Ah oui, ouais. C'est considérable.
Assez considérable. Ouais. Donc 1,5 pour Terre-Neuve, donc c'est nettement moins, tout simplement parce que le climat y est plus sain. Mais dès que la guerre arrive, la donne.
C'est les épidémies ou c'est les accidents à Terre-Neuve?
Alors les deux. Justement, l'étude qu'on va lancer permettra justement de faire un petit peu la part des choses, parce que les archives, notamment liées au système des classes, nous renseignent un petit peu là-dessus. Et donc, on pourra faire la part des choses de ce qui est accident, de ce qui est donc épidémie. Sachant qu'il y a des expressions auxquelles il faut faire attention. Quelqu'un qui est tombé du haut du mât, par exemple, c'est quelqu'un qui est épileptique en général. Donc c'est quelqu'un qui est épileptique. Donc c'est quelqu'un qui a des crises comme ça fréquentes. Et voilà, il faut voir aussi que beaucoup de gens embarquent en ayant un handicap, en étant invalide. Hein, donc voilà, alors les jambes de bois, les hernieux, vous avez tout ça aussi sur les navires. Tout simplement parce qu'il faut bien continuer à travailler. On ne peut pas s'arrêter. Hein,
et aussi parce que le roi l'exige. Pas sur les vaisseaux.
Avec quoi je confonds ? On s'aperçoit que la chose est plutôt bien faite. Colbert a quand même bien fait les choses. Après, la question est de savoir, est-ce que les embarquements sur les vaisseaux du roi, c'est-à-dire que je rappelle, le système des classes, c'est une année sur trois ou une année sur quatre. Alors en Bretagne, c'est une année sur quatre. Normalement, parce que entre la théorie et puis la réalité, il y a une différence. Mais normalement, donc, doit être effectué au service du roi. Donc ces gens-là, qui perçoivent la demi-solde, n'ont pas le droit, l'année où ils sont désignés, n'ont pas le droit d'embarquer sur quelque navire que ce soit. Donc juste, finalement, se livrer à la pêche côtière. Alors c'est aussi quand ils ne sont pas appelés finalement dans un arsenal, c'est aussi l'occasion de rester un peu plus à la maison, c'est vrai. Ne sont embarqués que les hommes valides.
D'accord.
Donc il y a toute une série de registres qui existent dans les archives. Alors c'est plutôt au service historique de la défense à Brest concernant Saint-Malo et ses environs. On voit très bien que ces gens-là finissent par être rayés d'activité, ce qui ne veut pas dire qu'ils cessent d'embarquer. Ils continuent d'embarquer des fois des années durant à la pêche, au commerce, voire sur des navires corsaires, mais ils ne sont plus considérés comme étant capables de combattre sur des vaisseaux du roi. Donc ils entrent effectivement sur des registres à part, et au bout d'un certain temps, quand leur handicap est reconnu, ils perçoivent la demi-solde. Et d'ailleurs, pour rebondir, c'est très souvent, ce sont eux qui vont percevoir leur demi-solde, mais comme ils continuent d'embarquer, c'est là qu'on voit aussi leurs femmes apparaître, leurs filles, bien souvent la fille aussi, leur belle-fille, leur belle-sœur. Donc ça permet de reconstituer effectivement tout ce monde, et voilà, ces femmes ont une procuration pour aller chercher la demi-solde du dit handicapé, ou alors du marin. Alors c'est assez drôle, des fois les annotations qui sont les apostilles qui sont indiquées, on a par exemple vieux, tout pourri par l'âge. Alors quand on regarde effectivement sur les registres de baptême, on s'aperçoit qu'il a 40
ans.
Oui, non. Vous êtes pas loin. 42 ans, 46 ans. Ça fait un peu frémir, mais voilà.
Ça fait partie des recherches que vous êtes en train de mener dans la région de Saint-Malo, vous aussi avec Emmanuel Le Charpentier.
Oui, alors ces recherches ont pour objet, alors avec Emmanuel Charpentier, avec un laboratoire également, donc elle est au Framespa, avec un laboratoire à Aix-Marseille qui s'appelle le laboratoire Hadès, qui lui va beaucoup plus traiter des rites funéraires, va traiter de l'état sanitaire, c'est-à-dire ce que vous abordiez tout à l'heure, l'accidentologie, je vais y arriver, et puis l'épidémiologie, et puis également une étude d'anthropologie historique, c'est-à-dire qu'on a des renseignements qui n'existe nulle part ailleurs en Europe et pour aucune autre société. On a en général donc et les dates de naissance et la taille des marins. Et on a cette mention plusieurs fois dans leur carrière. Donc on voit effectivement s'ils ont tendance à grandir ou à se rapetisser. Et puis on a la couleur de leur poil également. Donc on les voit effectivement à un certain âge avoir les cheveux gris, voire n'avoir plus de cheveux du tout, voire avoir une perruque pour cacher le fait de n'en avoir pas. Et donc cette dimension serait importante. Et la première dimension, celle dont je vais m'occuper moi, c'est la, avec donc Aurélies, qui est ingénieur d'études au CNRS, c'est de reconstituer les carrières, c'est-à-dire de faire une base de données où chaque navigation, non pas bateau, parce qu'un bateau peut porter plusieurs fois le même nom et faire effectuer plusieurs navigations, donc on identifiera les navigations d'un côté, de l'autre côté les marins avec tout leur environnement familial. Il faut savoir qu'un marin lui-même génère éventuellement une centaine de noms autour de lui. Donc de par ses familles ascendantes, descendantes, collatérales. Et donc on fera effectivement une base de données qui réunira les deux et qui permettra de mesurer des tas de données relatives à leur carrière. Mais si vous me permettez, je voudrais quand même dire également que cette étude s'appuie, alors moi j'aurais tendance un petit peu à les appeler les trois mousquetaires. Il faut savoir que à Cancale particulièrement, vous avez trois personnages que j'admire beaucoup, qui ont consacré des années de leur vie à faire des recherches dans l'obscurité, et qui sont tout à fait admirables. Ces gens-là, donc Aristide de la Rose, Thierry Hulc et Roland de l'Épine, qui ont chacun finalement dans un domaine particulier, ont fouillé les études, ont fait des répertoires, et donc ces recherches évidemment rendent tout possible. Sans elles, c'était pas imaginable d'entreprendre cette étude qui va commencer en 1680 et qui ira jusqu'en 1789-1790, ce qui veut dire qu'on va balayer 10 générations. Et c'est en ça que le projet est intéressant, parce que c'est un projet qui s'établit sur la longue durée. Donc on verra effectivement telle famille, ses enfants, les petits-enfants, et puis voir tous les comportements.
Les décès, les remariages.
Les veuvages, justement, les veuvages de femmes, les remariages, les familles recomposées, très important à l'époque. Un homme ne reste pas veuf très longtemps quand il est suffisamment jeune.
Christian.
Est-ce qu'on peut vous poser une question sur votre parcours de chercheur, puisque vous êtes aujourd'hui maître de conférence à l'université, oui, etc. Mais vous avez aussi, vous avez
engagé 15 ans dans la marine.
Quel lien vous faites entre ces deux métiers? Qu'est-ce que vous faisiez dans la marine précisément?
Alors, dans la marine, j'étais canonnier. Donc, vous voyez, ça va très bien avec Cancale, puisque c'est assez extraordinaire. À Saint-Coulon, on est plutôt charpentier. Peut-être qu'on se rapproche plus de Saint-Malo aussi, et donc on est susceptible de travailler comme ouvrier à Saint-Malo, alors qu'à Cancale, on est plus volontiers canonnier. Et effectivement, il y a des côtes à défendre, en témoigne la descente des Anglais en 1758. Donc moi, je suis canonnier. J'étais canonnier, je veux dire. Donc j'étais mousse à 15 ans. Je suis devenu donc ce qu'on appelait pompeusement électronicien d'armement à l'époque. Mais c'est du canon. Et donc j'ai fini ma carrière, si vous voulez, à un moment où on se pose la question de savoir si on va rester ou partir. Je suis parti. Je suis devenu enseignant dans le secondaire, donc j'ai passé comme tout à chacun un concours d'enseignement que j'ai obtenu. J'ai enseigné 6 ans dans un collège et pendant ces 6 années, donc j'ai écrit ma thèse. Je crois que c'est tout se fait, vous savez, par des rencontres. Dans la vie, hein. Y a des jours comme ça, en quelques minutes, les choses se décident sans qu'on en ait vraiment conscience. Moi, je suis allé, puisque j'ai fait mes études par correspondance, tout se faisait à Paris 10 à l'époque, Paris 10 Nanterre. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, vous travaillerez sur la marine puisque vous êtes marin. Et puis voilà, il faut pas forcément chercher à désobéir, il faut pas chercher à comprendre. Et les choses se sont faites tout à fait naturellement.
Mais avec quand même une compréhension un peu de l'intérieur, du coup.
Avec une avec une compréhension de l'intérieur, et puis alors
une empathie.
Voilà. Et moi, j'ai travaillé surtout sur les colonies, hein, donc François Bluche d'abord, et puis Jean Meyer, et puis surtout Pierre Pluchon, hein, m'ont orienté vers les colonies, vers Saint-Domingue. Donc moi, c'est les Antilles, hein, qui est un petit peu mon cœur de métier pendant très longtemps. Et puis ce fabuleux personnage de Ducasse, hein, qui est parfaitement méconnu aujourd'hui, mais qui est quelqu'un qui a eu la carrière la plus extraordinaire de l'Ancien Régime dans la marine, puisque à l'origine il était d'une petite bourgeoisie, donc roturier, huguenot, ce qui n'est pas facile, hein, pour réussir, qu'il est resté roturier en devenant amiral, sa fille a épousé un La Rochefoucauld, etc. Donc une carrière fabuleuse, mais qui m'a fait aussi me dire que il y a des grands personnages assurément dans la marine. Et les petits, c'est bien aussi de s'y intéresser. D'autant que, et c'est ce qui surprend tous nos collègues historiens en Europe, le système des classes, qui est le seul à avoir été mis en place donc en France, en dehors de l'Espagne qui a connu effectivement ça une dizaine d'années, a généré des archives qui font qu'on devait surveiller ces gens de mer, faut pas l'oublier, on devait les surveiller, et donc on surveillait leurs épouses. Et le curé avait aussi ce rôle dans l'autre sens, il transmettait vers le haut, mais il regardait ce qui se passait vers le bas. Cette surveillance, elle a généré des archives qui nous donnent des connaissances sur les gens de mer que seuls nous possédons en Europe.
Philippe Rodet, j'en vous remercie infiniment. Vos prochains livres seront consacrés notamment à la santé navale et au capitaine corsaire. Et je rappelle le titre « Les femmes et la mer à l'époque moderne », un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Emmanuel Charpentier. Édité aux Presses universitaires de Rennes, il coûte 25 euros. Merci beaucoup. Le livre, je rappelle aussi « Le peuple du rivage » de Emmanuel Charpentier, également au pur. Merci beaucoup, merci Christian, merci notre réalisatrice Lucie Louapre, et à bientôt dans un mois pour une autre émission de Chercheurs en ville.